Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après avoir étudié les vertus théologales et la miséricorde qui se rapproche beaucoup des vertus théologales, nous entrons maintenant dans les vertus morales, dont la première est la prudence. Lorsque Mgr Lefebvre nous parlait des vertus, il nous parlait très souvent soit de la prudence, soit de la vertu de religion, la religion qui nous lie à Dieu, et la prudence qui dirige notre vie. Et je ne me rappelle pas de conférence de Mgr Lefebvre sur la vertu de force, ni même sur la vertu de tempérance, aussi surprenant cela puisse-t-il paraître. Mais je crois que, à ceux qui ont bien compris, la tempérance est naturelle. La force peut-être un peu moins, nous le voyons bien aujourd'hui. Et la justice, quand on est juste envers Dieu, qu'on se met bien à sa place envers Dieu, tout naturellement, on se met bien à sa place envers les hommes. Et voilà pourquoi, bien que Monseigneur ne nous ait parlé que de la prudence et de la religion, le reste en découlait tout naturellement. Je parle des vertus morales, hein, parce que les vertus théologales, il insistait énormément et nous en parlait très souvent. La vertu de prudence est très importante parce que nous avons vu jusqu'à maintenant beaucoup de beaux principes. Nous avons vu avec la foi la beauté de Dieu, les mystères de Dieu, nous sommes entrés dans la sagesse de Dieu. La charité nous a fait aimer toutes ces belles choses de Dieu, toutes ces belles vérités de Dieu. Nous nous sommes attachés à lui. Et nous avons compris que notre vie devait avoir pour but ce que la foi nous montre et ce que la charité nous fait aimer. La vertu d'espérance, comme je vous l'ai dit, nous permet de nous appuyer sur Dieu pour cela. Nous avons un petit peu étudié, quoi que ce soit plus l'objet de la vertu de religion, mais enfin, nous avons quand même bien été obligés de parler de la croix, qui est vraiment première d'une certaine manière dans la vie chrétienne. Et maintenant, il faut mettre cela en œuvre. Comment vais-je pratiquer la charité? Comment vais-je pratiquer la foi? Un exemple tout simple. Parmi les œuvres de miséricorde, quelle est celle que je vais exercer maintenant? Comment vais-je l'exercer? Et nous voyons aussitôt qu'il y a un danger à être, on pourrait dire, trop miséricordieux et un danger à être trop peu miséricordieux. Je ne peux pas faire tout le bien que j'aimerais, mais je ne peux pas passer à côté du bien que je dois faire. Quel est donc le bien que je dois faire? Et quel est celui que je dois ne pas faire? Et il en va ainsi, je vous ai pris l'exemple de la miséricorde, mais prenez l'exemple suivant, un exemple très simple. Puis-je m'asseoir à la table de divorcés remariés? Ou bien, puis-je m'asseoir à la table de musulmans? Ou bien, puis-je rendre visite à un faux couple? Il est évident que poser la question ainsi c'est se condamner à ne pas pouvoir y répondre. Parce que on a là uniquement la matérialité du fait, et il faut replacer cela, non pas dans le contexte, grand mot à la mode, mais par rapport à la fin, au but poursuivi. Par exemple, si dans une famille catholique, le père reçoit à sa table des enfants concubinaires, il est évident qu'il approuve leur état de vie. À plus forte raison, s'il leur offre la même chambre aux concubins pour passer la nuit lorsque ceux-ci viennent en vacances. Il y a là une approbation. Par contre, lorsqu'un prêtre se rend chez des concubins pour leur parler, faire son ministère, les amener à régulariser la situation, il est évident que cette démarche du prêtre n'est plus du tout une approbation et qu'elle est parfaitement légitime. Le prêtre, d'ailleurs, va traiter ses faux époux avec une certaine bienveillance, ce qui serait absolument contraire à la sagesse de Dieu s'il s'agissait du père de famille qui doit mettre de l'ordre dans sa famille. Et encore, quand je dis le prêtre, évidemment, le prêtre dans sa paroisse doit agir avec la même sévérité que le père de famille, mais je parle de pécheurs qui se convertissent et qui veulent revenir à la voie droite. On va avoir la même attitude avec des musulmans, par exemple. Est-il une bonne chose de fréquenter ceux qui ne sont pas dans la bonne religion? Non, évidemment. Et pourtant, nous voyons que les saints ont fréquenté des païens, des musulmans, qu'ils en ont même traité certains avec égard, avec honneur. Monseigneur Lefebvre, en Afrique par exemple, tout en faisant, ou bien le père de Foucault, tout en faisant bien les distinctions. Il y a là tout un mélange de circonstances, de principes, de manières d'appliquer les circonstances et les principes. Vous vous rendez bien compte qu'il va falloir des critères objectifs pour déterminer l'action bonne et que ces critères ne peuvent pas être les critères que le monde nous propose. Le monde nous propose principalement l'utilité. Mais le problème de l'utilité, c'est que elle n'est pas définie. Elle revient finalement à une passion, c'est-à-dire à un intérêt personnel, égoïste, coupé de la recherche du bien et surtout du bien commun. Le monde nous propose également comme critère de la prudence l'efficacité. Cela revient un peu au même. Reste à savoir ce qu'on appelle efficace. Pour nous est efficace ce qui nous mène au ciel, c'est-à-dire ce qui répond à la sagesse de Dieu. Pour le monde est efficace ce qui permet de faire ses affaires, d'être bien vu dans le monde. Un autre critère que le monde nous propose, c'est justement de cette connivence, cette bienveillance du monde. Ça s'appelle dans le catéchisme le respect humain. Mais si on parle de respect humain, tout le monde comprend, mais tout le monde vous dira, ou beaucoup de gens vous diront, mais mon attitude n'est pas du respect humain, mon attitude c'est de m'adapter à la vie en société dans laquelle je suis, et vous comprenez que je ne peux pas appliquer les règles de la morale qui sont peut-être très vraies en théorie, mais inapplicables en pratique. C'est ainsi que je discutais avec un professeur de théologie morale à Écône sur savoir si une infirmière pouvait participer à des mutilations, des stérilisations qui permettent aux époux, lorsqu'ils sont ensemble, de jouir du plaisir de l'acte conjugal sans en avoir les conséquences les enfants, puisque la stérilisation rend toute conception impossible. Et il disait que oui. J'essayais d'argumenter avec lui. Et il insistait lui-même en me disant « Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible, elle va perdre son emploi. L'Église n'a jamais demandé l'héroïsme. » Alors on se demande pourquoi il y a des martyrs. Et finalement, et il conclut « De toute façon, monsieur l'abbé, taisez-vous, vous ne pouvez pas affirmer cela, car cela va contre l'opinion de tous vos confrères de la région. » Alors, je ne sais pas si mes confrères étaient d'une opinion différente à la mienne, j'espère que non, mais on a là un critère qui est véritablement un critère du monde. Vous êtes obligé de vous adapter, et on déclare prudent ce qui permet de s'adapter au monde et imprudent ce qui fait des problèmes, des esclandres. Tous ces critères pêchent, enfin ils sont faux, parce qu'ils sont arbitraires. Et si on creuse un petit peu, on n'est pas loin de la passion, c'est-à-dire d'une attitude absolument pas humaine, pas une attitude humaine parce que pas une attitude sage, parce que une attitude finalement qui cherche à vivre comme les animaux, ça serait peut-être beaucoup dire, malgré tout, une attitude qui n'est pas une attitude d'homme. Quel est le critère? Le critère, je vous l'ai dit, mes bien chers frères, c'est tout d'abord la sagesse de Dieu, la vérité. Il s'agit d'appliquer les choses que nous connaissons. C'est un grand principe, et rien qu'en vous énonçant cela, il est évident que je vais à contre-courant, non seulement du monde moderne, mais des mondains, et hélas de beaucoup de libéraux. Oui, j'oubliais, un des critères fournis par le monde, c'est le libéralisme. Mais le libéralisme, finalement, n'est qu'une adaptation au monde. Nous y reviendrons. La volonté est une faculté aveugle. Elle veut le bien, mais qu'est-ce qui lui présente le bien? Qu'est-ce qui lui montre ce qui est désirable? C'est l'intelligence. L'intelligence est la grande faculté de l'homme, avec la volonté bien sûr, mais elle est la première. Au point que des grands philosophes se sont demandé si on ne pouvait pas définir l'homme comme une intelligence, tout simplement. Alors non, c'est pas possible parce que c'est un petit peu, cela laisse tomber la richesse qu'il y a en plus de l'intelligence, mais malgré tout. Cependant, donc ce sont les principes qui sont premiers, les principes de vérité, les principes que la foi nous a montrés, mais également les principes que l'intelligence nous a montrés. Et tout homme naît avec une certaine intelligence, alors pas une connaissance de toutes choses, bien sûr, mais avec une connaissance innée d'un certain nombre de choses, et tout homme acquiert assez vite un peu d'expérience, et puis il y a le bon sens qui est également une intelligence spontanée des réalités humaines. Donc il va falloir appliquer les principes à la réalité. Le but de la vertu de prudence est de diriger l'action, bien entendu. Il ne s'agit pas d'une vertu purement intellectuelle comme la raison, l'intelligence, la sagesse, qui sont des vertus intellectuelles. Il s'agit bien d'une vertu morale qui dirige la vie. Mais cette vertu, toute morale qu'elle est, les mœurs, c'est-à-dire le comportement, est en même temps une vertu qui met le comportement en dépendance de la sagesse de Dieu, de la fin des principes. Principes, j'espère que je n'ai pas besoin de vous démontrer qu'un principe ne peut pas être remis en cause, jamais, parce que c'est un principe. Et que si on remet en cause un principe, tout s'écroule derrière. Il n'y a plus rien. Il y a différentes manières d'appliquer un principe, et c'est ce que la vertu de prudence nous permet de faire. Mais même lorsqu'on semble s'éloigner du principe, en réalité, on ne s'en éloigne que pour mieux le respecter ou pour respecter et observer un principe supérieur. L'intelligence est donc une la prudence, pardon, mes bien chers frères, est donc une faculté intellectuel. Cela peut vous surprendre parce que notre monde a fait de la piété une affaire sentimentale. Et lorsque on parle d'intelligence, on vient troubler une espèce de bien-être sentimental que l'on confond avec la religion. Lorsque notre piété, et ça il faut écouter Mgr Williamson qui en parle de façon très imagée, notre piété a été complètement non seulement édulcorée, mais très tournée vers nous, très égoïste. Elle n'est plus une soumission, un enthousiasme au service de la gloire de Dieu et du Christ roi, elle est un intérêt personnel. La vertu de prudence, au contraire, nous met au service du Christ roi. Et si nous prenons cet exemple, vous comprenez d'emblée, mes bien chers frères, que il n'y a qu'un seul service du roi et pourtant de multiples manières de le servir. Et parmi ces manières de le servir, il y en a qui sont pour nous, d'autres qui sont pour les autres. Et dans celles qui sont pour nous, il y a celles qu'il faut mener maintenant, celles qu'il faut mener à d'autres moments. Et puis dans celles qu'il faut mener maintenant, il y a telle manière qui est convenable et telle manière qui ne l'est pas. Là encore, c'est la vertu de prudence. Vous comprenez bien que puisque la prudence est une vertu intellectuelle, il va falloir la former, et parce qu'elle est une vertu, il faut la former, et parce qu'elle est intellectuelle, il va y avoir une part d'intelligence, une grande part d'intelligence dans la formation de la vertu de prudence. Le monde moderne, à l'opposé, va détruire la vertu de prudence, parce que c'est la vertu qui fait des chefs. Et le monde moderne déteste les chefs, parce qu'un chef est capable d'enrayer la machine révolutionnaire. Regardez Mgr Lefebvre, un homme seul, avec une prudence extraordinaire, mais je vous en parlerai, qui est une prudence du Saint-Esprit, le don de conseil du Saint-Esprit, dans les cas aussi graves que ceux que Mgr Lefebvre a eu à traiter. Il est évident que le bon Dieu ne nous laisse pas à nos seules forces, pas même à nos forces éclairées et renforcées par la grâce, et qu'il fait intervenir le Saint-Esprit, qu'il intervient lui-même par son esprit, c'est le don de conseil. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Mgr Lefebvre, un homme seul, qui par la puissance de sa foi, mais une foi qui n'est pas que de la foi, parce que elle est mise en œuvre. Il y a beaucoup d'évêques qui ont vu ce que Mgr Lefebvre a vu, mais il est le seul, avec Mgr de Castromeyer, il est le seul à avoir réagi, c'est-à-dire à avoir mis en œuvre sa foi, à avoir mis en application sa foi. Et parce qu'il a mis sa foi en application, il a vu comment procéder pour sauver la foi dans notre pauvre monde moderne. Il a fait pour cela un séminaire, il a fait pour cela des prêtres, il a fait pour cela des évêques, et comme Rome, avec une fausse sagesse, s'opposait au sacre d'évêques par Mgr Lefebvre, Mgr Lefebvre est passé outre. C'est là le summum de la prudence, et en passant outre, il a bloqué, d'une certaine manière, la machine révolutionnaire. Vous allez me dire qu'elle continue à avancer. Oui, elle continue à avancer chez ceux qui le veulent bien, mais chez les bons chrétiens qui cherchent vraiment la gloire de Dieu, la machine révolutionnaire a été bloquée, c'est-à-dire que la prudence de notre Seigneur, la prudence du Saint-Esprit, grâce à Mgr Lefebvre, a réveillé les bons chrétiens et surtout leur a donné les moyens de faire en sorte que dans certaines familles, dans leurs familles, le monde n'entre plus, s'ils le veulent bien, parce que tout le monde n'a pas été fidèle. Le monde moderne, qui connaît très bien la psychologie humaine, s'attaque aux hommes à tous les niveaux, et il est évident que le bon chrétien ne va pas être attaqué premièrement sur la foi. Il va être attaqué en grande partie sur la prudence. Car pour le monde moderne, qu'un chrétien croit mais qu'il n'agisse pas en chrétien, c'est tout bénéfice. Parce que un chrétien qui croit sans agir en chrétien, finalement, entre dans le grand concert de l'œcuménisme, du relativisme, tu crois ce que tu veux, on s'en moque, tu agis comme tout le monde. Et finalement, le chrétien qui croit sans agir devient complice de ce monde qui a pour but d'anéantir toute la sagesse de Dieu, toute la royauté de Dieu dans le monde. Et le monde moderne va lutter contre la vertu de prudence chrétienne, il va le faire de deux manières. La première, en endormant l'intelligence, et pour cela, vous avez le journal Le Figaro, et encore mieux, Le Figaro Magazine, toutes les semaines, le samedi, et qui est une piqûre de chloroforme qui permet à des gens intelligents de penser à tout sauf à ce à quoi il faut penser. Et vous avez ensuite les passions qui vont troubler l'esprit et par conséquent détériorer la vertu de prudence. Toutes les passions, y compris la sensualité. Il est temps que j'achève. Mes bien chers frères, là, je vous ai donné un avant-goût sur l'importance de la prudence. Il faudra que nous apprenions à la cultiver, que nous apprenions à la mettre en œuvre, à la suivre, et que nous voyons comment elle s'applique dans les circonstances tout à fait extraordinaires dans lesquelles nous vivons. Mais cela, sera pour une autre fois. Priez beaucoup pour demander à Dieu la prudence. Virgo prudentissima, Vierge prudente, priez pour nous. La Très Sainte Vierge est le grand modèle de la prudence. Nous verrons pourquoi. Demandez-lui qu'elle vous donne cette vertu de prudence. C'est déjà un premier réveil de la prudence que de nous rendre compte qu'elle ne nous est pas naturelle et qu'il faut que nous la cultivions d'une part et que nous la demandions à Dieu d'autre part pour lui être vraiment fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.